Panorama international. Une semaine d'actualité. Benoît Ruel.
Et à nos côtés aujourd'hui pour commenter l'actualité de la semaine, Mohamed Harkoun. Mohamed Harkoun, bonsoir.
Bonsoir.
Mohamed Harkoun, vous êtes né en 1928 en Haute-Kabylie, à Taourirt Mimoun, le même village que l'écrivain Mouloud Mameri, disparu, on le sait, il y aura bientôt 5 ans. Après des études d'arabe et d'histoire à la faculté d'Alger, vous êtes arrivé à Paris pour préparer un doctorat. C'est alors que vous êtes entré à la Sorbonne. Alors jusqu'en 1992, vous allez y enseigner l'histoire de la pensée islamique, tout en donnant des cours dans plusieurs universités à l'étranger, et puis bien sûr, tout en écrivant. On citera pour mémoire « Lecture du Coran » ou « Pour une critique de la religion islamique » ou bien encore « L'islam, morale et politique », tous parus chez Maisonneuve Larose. Alors j'ajoute encore une chose, en 1990, le président Mitterrand vous a nommé, vous le spécialiste de l'histoire comparée des religions, vous le musulman modéré, au Comité national d'éthique. Alors Mohamed Harkoun, vous êtes à nos côtés ce soir pour commenter quelques sujets à la une de l'actualité cette semaine. Cela étant, vous le savez, une fois encore, Panorama international va se tourner en priorité vers l'Algérie qui, le 25 et 26 janvier prochain, doit vivre normalement à l'heure d'une conférence nationale par laquelle le pouvoir entend faire légitimer par l'opposition les nouvelles institutions. Aussi pour commencer, et avant de vous donner la parole, Mohamed Harkoun, je vous propose d'entendre un extrait de l'interview que vient d'accorder Antoine Perruchot de France Culture, l'écrivain Rachid Boudjedra, auteur notamment de « Fils de la haine » paru chez De Noël en 92. Rachid Boudjedra.
Mon témoignage aujourd'hui est un témoignage pour dire un peu le contraire de ce qu'on lit dans les médias français en particulier, une sorte de dramatisation, une sorte de prophétisation du chaos. Il y a un discours parfois, même de certains intellectuels peut-être, qui craquent moralement, ce qui est tout à fait compréhensible. Il y a en Algérie effectivement une situation difficile. Il y a le terrorisme, il y a une lutte contre ce terrorisme de la part des forces de l'ordre. Quand on parle de chaos, quand on parle de guerre civile, on pense un peu à ce qui se passe en Yougoslavie. Et je voulais dire ici que ce n'est absolument pas vrai. Ce qui n'empêche pas que, quelque part, il y a une pression dramatique sur nous, sur les citoyens algériens, de la part d'une sorte de nébuleuse maintenant, à la fois fanatique, intégriste et en même temps de pègre et de mafia. Vous parlez de l'effondrement de l'économie, c'est faux. Là aussi, l'économie fonctionne, comme je vous disais. Une économie qui ne fonctionne pas, on ne peut pas avoir des trains qui partent à l'heure, des avions qui partent tous les jours dans le monde entier, le téléphone qui fonctionne. Je veux dire, pourquoi en France, il n'y a pas d'usine qui ferme tous les jours? Est-ce qu'on peut parler de chaos en France? Le nombre de chômeurs augmente chaque mois, l'Algérie aussi. Pourquoi ne dramatise-t-on pas le chômage en France, mais on le dramatiserait plus en Algérie? C'est ça qui me gêne, moi, en tant qu'intellectuel, très ouvert à l'Occident, très à l'écoute de l'humanisme occidental, de la démocratie occidentale. J'aimerais que les choses soient dites carrément. Je trouve qu'il y a beaucoup de non-dits dans les médias français et je suis frappé. Personne ne parle de la dette de l'Algérie. Exactement, quelle est la dette? Combien de fois elle a été payée? Quel est le prix du pétrole? Personne ne le dit. Pourquoi? Pourquoi l'Occident est-il si impatient par rapport à nos petites démocraties balbutiantes? Combien de temps l'Occident a-t-il mis pour arriver à la démocratie? Pourquoi toute cette impatience lorsque vous, occidentaux, avez mis 2 siècles? Laissez-nous un siècle, laissez-nous 50 ans peut-être. La démocratie est une culture. Il faut l'appréhender, l'apprendre, la découvrir, la connaître. Nous balbutions dans nos démocraties, effectivement, rien d'idéal dans tout cela, bien sûr. Nous sommes loin de ce qu'on peut appeler la démocratie française, par exemple, qui est quand même qui a des traditions très anciennes. Et nous n'avons pas de tradition ancienne. Nous sommes en train de découvrir la démocratie en essayant d'être démocrate.
L'écrivain Rachid Boudjedra plaidant en faveur de plus d'objectivité vis-à-vis de la situation en Algérie. Mohamed Harkoun, vous lui donnez raison?
C'est trop compliqué pour que je dise d'emblée oui. Il dit des choses évidemment que j'approuve, mais personnellement, depuis très longtemps, comme vous l'avez dit dans votre présentation, je refuse absolument d'utiliser le langage courant qui oppose Occident et Islam en particulier. J'essaie d'aborder les choses tout autrement et de donner surtout des éclairages que nous n'avons pas encore à l'intérieur des sociétés musulmanes d'une façon générale et plus particulièrement des sociétés arabes, car il est vrai que les sociétés arabes sont davantage liées géographiquement, historiquement à l'Europe que des sociétés musulmanes comme l'Indonésie ou même comme l'Iran. Et donc, si nous considérons le monde arabe, il est nécessaire de renoncer absolument à cette opposition qui nous cause tant de mal entre un Occident qui serait toujours hostile, dominateur, pas objectif, et un monde arabe qui proteste de sa bonne foi et qui fait des efforts, etc. Ce que je dis depuis très longtemps en tant qu'historien de la pensée islamique et donc nécessairement de la pensée arabe, c'est que nous ignorons notre propre histoire et par conséquent nous ignorons les origines historiques profondes de ce qui est en train de nous arriver, en particulier depuis les années 1950, lorsque ont commencé les fameuses luttes de libération.
Précisément dans
ce qui concerne l'Algérie, par exemple, les drames, hélas, auxquels nous assistons, ne peuvent pas être compris s'ils ne sont pas référés, rattachés, non seulement à une histoire récente allant jusqu'à la guerre de libération. Moi, je l'ai vécu, je me souviens très bien de ce qui s'était passé, et ce sont des souvenirs très douloureux qui sont ravivés aujourd'hui par les drames quotidiens qui se déroulent dans cette même Algérie. Et je pense que les Algériens, les Maghrébins, les Proches-Orientaux, toujours dans le monde arabe, ont intérêt à commencer à parler d'eux-mêmes.
Mohamed Harkoun, est-ce qu'on ne peut pas dire que les francisants, comme on les appelle, est-ce qu'ils n'ont pas commis une grave erreur, celle de croire que seul le français pouvait véhiculer des idées démocratiques? Je pense à ça parce qu'il y a récemment a été assassiné Youssef Septi, l'écrivain, le poète, et lui s'en prenait aux francisants. Il disait qu'il faut contester aux islamistes la primauté de la culture arabe.
Eh bien, vous voyez, je n'entre jamais dans ce type de débat. Parce que moi, je connais l'histoire de la pensée arabe. Et je sais qu'il y a des antécédents qui peuvent être invoqués aussi en ce qui concerne l'humanisme. J'ai écrit un ouvrage qui a été ma thèse de doctorat qui s'appelle « L'humanisme arabe au 4e siècle de l'Égypte », c'est-à-dire au 10e siècle. Et malheureusement, l'histoire récente a fait que nous avons deux camps. Un camp qui est purement occidentaliste, qui connaît parfaitement les références historiques, culturelles, philosophiques qui existent en Occident, et un autre camp qui se réclame de références arabes, mais qui, hélas, ne connaît pas non plus ces références arabes. Ce serait trop long à analyser pour expliquer pourquoi, tout en se réclamant d'un retour à un modèle islamique, arabe, etc., en fait, il y a rupture profonde, non seulement d'une conscience historique, mais de la connaissance de l'histoire de cette culture. C'est justement pour cela qu'il faut essayer aujourd'hui de sortir de ce qu'on appelait autrefois, au temps de la guerre d'Algérie, le tête-à-tête colonial, et qui aujourd'hui est en train de s'imposer à nouveau sous le nom de tête-à-tête avec l'Occident, ou de tête-à-tête, en l'occurrence, l'Algérie et la France demeurent, comme nous le voyons, intimement liés.
Cela dit, Mohamed Harkoun, vous reconnaissez peut-être tout de même que ce tête-à-tête colonial ou avec l'Occident était quasiment un parcours, une étape obligatoire après l'enthousiasme de l'indépendance. Il fallait renforcer l'imaginaire arabo-islamique,
oui,
notamment des Algériens.
Oui, mais pas de n'importe quelle façon. Et ce sont là les erreurs qui ont été commises, par exemple, au niveau du système éducatif. On ne peut pas évoquer ici tous les problèmes liés, par exemple, à l'opération de l'arabisation, non seulement en Algérie, mais au Maroc et en Tunisie. Il y a eu une utilisation purement démagogique de l'arabisation, qui par ailleurs était un acte évidemment nécessaire. Et ça a donné des conséquences pour la formation de la génération qui maintenant justement arrive au niveau de la vie politique et constitue justement la base sociologique d'un grand nombre des événements auxquels nous assistons. Et au lieu de faire une arabisation de ce type, il aurait fallu continuer à maintenir la fenêtre, non seulement la fenêtre, mais des portes ouvertes, à la fois bien sûr sur ce que peut représenter toute la culture arabe, la langue arabe, etc., et en même temps les langues d'Occident et ce qui se passe en Occident. Car on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que, historiquement parlant, c'est en Occident, c'est en Europe, plus précisément, que un grand nombre d'idées scientifiques, philosophiques sont nées pour la première fois. Il y a eu des ruptures intellectuelles, des ruptures scientifiques, des ruptures culturelles qui ont été vécues ici et qui sont restées, ce que j'appelle,
l'impensé dans la pensée arabe contemporaine, l'impensé dans la pensée iranienne contemporaine, et même dans la pensée turque contemporaine, bien que la Turquie ait pris l'avance que l'on sait, justement, sur un certain nombre de thèmes. Donc il y a là une prise en considération des problèmes internes à l'histoire de ces sociétés et de la définition de ces sociétés par elles-mêmes. J'ai toujours en tête cette belle phrase de Michelet qui disait « La France a fait la France par un lent travail de soi sur soi ». Eh bien, ce travail de soi sur soi n'est pas accompli dans les sociétés musulmanes et plus généralement dans celles du tiers-monde, à cause évidemment du phénomène colonial, du phénomène de la rencontre avec la modernité, justement qu'il faut analyser, mais qu'il faut analyser en dehors de ces catégories manichéennes qui ont été celles du discours nationaliste pendant toute la période des luttes de libération et la période qu'on a appelée la période de la construction nationale après les indépendances. Il y a là un travail considérable à faire.
Mohamed Harkoun, je vous redonne la parole dans un instant, car maintenant je voudrais que nous réécoutions ce que déclarait le 30 décembre dernier à Christian Mallard de France 3 le premier ministre algérien Reda Malek.
Nous avons l'intention et même, je dirais, la volonté et la détermination pour édifier un État solide sur des fondements inébranlables et un État aussi qui soit crédible, qui soit en contact avec la population et qui ne soit pas coupé de la population, qui soit avec la population, qui fasse corps avec le peuple algérien.
Donc il s'agirait de tirer un trait sur certaines erreurs qui ont pu être commises dans le passé, et je pense particulièrement du temps du président Chadli.
Absolument, nous sommes pour la rupture. Si nous sommes arrivés à la situation actuelle, c'est que l'État n'avait pas joué son rôle, que le consensus qui avait existé avait été érodé, qu'il y a eu des déviations de toutes sortes qui ont fait que l'État avait perdu la confiance du peuple. Le passé est terminé, que nous traçons un trait, que nous allons vers l'avenir et que nous allons vers le 21e siècle, la tête haute.
Alors bien sûr, il n'est pas question de douter de la volonté de Reda Malek de rétablir l'autorité de l'État, reste que la violence en Algérie ne cesse de faire des victimes. Mardi, par exemple, le préfet de Tissemsilt et toute son escorte, soit une dizaine de personnes, ou bien encore, toujours mardi, trois policiers à la périphérie d'Alger, sans oublier samedi après-midi, l'assassinat en plein centre de la capitale d'une Française de 45 ans, employée au consulat de France. Et on peut se demander sérieusement comment, dans ces conditions, la conférence nationale qui doit se tenir les 25 et 26 janvier pourra désamorcer cet engrenage de la terreur, d'autant que lundi, le Front des Forces Socialistes a annoncé officiellement sa défection à cette réunion, et vendredi, c'est le comité central du FLN qui a demandé à son bureau politique d'en faire autant. Alors pourquoi ? Eh bien, les explications de son secrétaire général, Abdelhamid Mehri.
Nous ne sommes pas d'accord sur cette approche. Nous concevons le dialogue comme un moyen de résoudre les problèmes du pays pour sortir de la crise et non pas pour régler le problème de la succession du HCE. Nous ne voyons pas comment on peut demander au parti de cautionner une politique sur laquelle il n'était pas d'accord depuis deux ans, qui n'a pas donné de résultats, et sur une méthode de gestion de l'État qui n'est pas suffisante pour résoudre les problèmes du pays.
Si je vous entends bien, vous souhaiteriez, par exemple, qu'il y ait un dialogue qui se réinstaure aujourd'hui avec le fils.
Nous n'étions pas d'accord sur l'arrêt du processus électoral, parce que nous estimons qu'il vaut mieux agir politiquement pour résoudre les problèmes du pays, plutôt que créer des impasses qui nous amènent là où nous sommes maintenant. Donc nous sommes toujours pour une solution politique qui implique toutes les forces politiques et sociale du pays, et nous estimons que si la situation actuelle dure, nous aurons de plus en plus de mal à arriver à une solution.
Vous attendez, semble-t-il, beaucoup de signes et d'apaisement du côté du HCE en matière des droits de l'homme, mais comment jugez-vous les exactions des groupes armés islamistes aujourd'hui ?
Nous ne sommes pas pour la violence, nous l'avons dit, nous l'avons répété. Simplement, il y a une tendance pour amener les partis à couvrir politiquement une politique sécuritaire. Et là, ça n'est pas le rôle des partis. Nous estimons que l'État ne doit pas agir comme des groupes qui ne sont pas responsables. L'État agit au nom de nous tous. Elle n'a aucune excuse d'outrepasser les droits de l'homme.
Le secrétaire général du FLN algérien, Abdelhamid Meri, au micro d'Henri Périllou. Mohamed Harkoun, fin décembre, donc sitôt la présentation par le régime de son projet de transition, le fils a fermé la porte au dialogue en appelant à la poursuite de la lutte armée. Le FFS de Sinaï Tamed en a fait autant. Il ne participera pas à la réunion à la fin du mois, pas plus que le FLN. On attend dans quelques jours la réponse des autres partis, le MDA, le RCD. Où va-t-on ? Est-ce qu'il y a encore une chance au dialogue en Algérie ?
Écoutez, je n'ai pas l'habitude de répondre comme cela à des questions de ce type sur les événements à chaud tels qu'ils se déroulent. J'ai toujours l'habitude d'intervenir, comme je vous l'ai dit, en tant qu'historien et en tant que spécialiste d'un certain domaine qui intéresse évidemment de très près les événements que nous sommes en train de vivre et qui peuvent les éclairer. Ce que je peux dire en ce qui concerne les événements actuels, c'est que le dialogue me semble très difficile après tout ce qui s'est passé. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, ce sont les bases culturelles de la société algérienne pour pouvoir faire front à une construction nationale qui tienne compte des réalités de la géopolitique d'aujourd'hui, des réalités de l'économie d'aujourd'hui, des réalités de l'avance des idées à la fois philosophiques et scientifiques aujourd'hui. Je connais cette base sociale et culturelle, non seulement en Algérie, comme je l'ai dit, mais également au Maghreb, et je sais que nous sommes très en deçà de ce que requiert aujourd'hui l'insertion de ces sociétés dans l'histoire telle qu'elle se construit dans la partie hégémonique du monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire ce fameux Occident et principalement l'Europe. Et personnellement, j'observe beaucoup ce qui se passe dans la construction de l'Union européenne. Et la question qui m'intéresse le plus, c'est de savoir quelles sont les possibilités à la fois économique, sociale et culturelle. Et personnellement, j'insiste peut-être plus sur le culturel que sur l'économique encore. Quelles sont les possibilités qu'ont les sociétés du Maghreb de pouvoir s'insérer dans cette marche historique qui est en train d'avancer, Dieu merci, à grands pas, pour l'Union européenne. Voilà ce qui, à mes yeux, constitue la question fondamentale que nous allons devoir affronter dans les 10 prochaines années.
Précisément, Mohamed Harkoun, alors quelles sont selon vous ces chances ?
Alors ces chances ne peuvent être évaluées que si nous examinons les deux parties en question, c'est-à-dire les dispositions de l'Union européenne en tant qu'espace politique nouveau et les possibilités qui existent au Maghreb, mais aussi dans le Proche-Orient, mais là aussi on peut faire une distinction parce qu'il faut serrer les problèmes. Il y a quand même un certain nombre de différences entre le Proche-Orient avec tous ses problèmes particuliers, mais là aussi il y a des perspectives qui se dessinent, espérons-le, avec la paix et avec Israël. Mais le Maghreb a une situation particulière par rapport à l'Europe, d'abord par sa proximité et par ses liens profonds avec la France et par l'intermédiaire de la France par conséquent avec cette Union européenne qui est en train de se construire. Donc il me semble que du côté européen, de l'Union européenne, il va y avoir des changements importants en ce sens que c'est l'Union européenne qui va tisser des relations nouvelles avec un ensemble. Est-ce qu'il arrivera à se constituer en tant qu'ensemble maghrébin ?
Oui, précisément, il faudrait que tous ces pays retrouvent leur dimension méditerranéenne.
Alors, la réponse pour moi la plus sérieuse, géopolitiquement parlant, c'est la réactivation de l'idée méditerranéenne, de l'espace méditerranéen auquel appartiennent aussi bien des pays européens aussi importants que la France, l'Italie, l'Espagne, il y a la Grèce aussi, mais par l'intermédiaire de ces pays, évidemment, c'est toute l'Europe, en tout cas culturellement, qui se trouve concernée par la réactivation de ce que représente aujourd'hui l'espace méditerranéen. Mais cet espace méditerranéen, hélas, reste absent de l'autre côté, dans la culture arabe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, dans la mémoire historique des Maghrébins telle qu'elle est constituée aujourd'hui et dans la sensibilité idéologique qui prédomine encore aujourd'hui dans la société maghrébine elle-même. Voilà pour moi quelque chose d'extrêmement urgent, de rendre sensible, vivante, cette vision d'un espace méditerranéen qui serait la plateforme historique commune où pourrait se faire, encore une fois, et où doit absolument se faire, parce que je ne vois pas d'avenir possible dans la modernité pour le Maghreb sans cette insertion.
Mohamed Harkoud, quand on vous lit, on reconnaît tout ce que vous nous dites là aujourd'hui. Récupérer la dimension méditerranéenne, c'est très important, vous en parlez souvent, mais vous dites aussi, l'Algérie, par exemple, s'est refermée sur elle-même du côté du nord, sa dimension méditerranéenne, mais aussi du côté du sud. Nous avons perdu la dimension du désert.
Absolument, absolument. Et tout cela, justement, n'a pas pu se faire. Et voilà pourquoi, quand j'entends aujourd'hui Reza Malek, qui a été mon camarade d'études et dont je connais bien le parcours et les idées, j'aurais tant aimé qu'il parlât comme il parle là maintenant, à propos de la rupture avec une certaine politique, il y a très longtemps, dès les débuts pratiquement de l'indépendance de l'Algérie. Et c'était au début de l'indépendance de l'Algérie qu'il fallait donner à ces problèmes-là une priorité politique et une priorité dans le système éducatif mis en place au lendemain de l'indépendance pour éduquer les jeunes Algériens dans une vision réaliste, enracinée à la fois dans cette dimension africaine, saharienne, non seulement de l'Algérie mais du Maghreb, mais aussi dans cette dimension méditerranéenne.
Vous-même, Mohamed Harkoud, on peut reconnaître, on peut admettre, on peut vous reconnaître cette qualité, c'est que vous ne vous êtes jamais exprimé tant en algérien qu'en maghrébin. Tout votre parcours est un parcours de maghrébin.
C'est exactement. Je me suis toujours tenu à distance des affirmations nationalistes qui pouvaient se justifier pendant les luttes de libération. C'était, si vous voulez, dialectiquement nécessaire. Mais qui, analysé, comme j'essaye de le faire, d'un point de vue historique, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue culturel, etc., on ne peut pas faire abstraction de la force que constitue l'espace maghrébin, comme je l'appelle, je préfère l'appeler ainsi justement pour éviter les dénominations nationalistes, par rapport à la Méditerranée et par l'intermédiaire de la Méditerranée, par rapport à l'Europe.
Mohamed Harkoud, encore une question.
Et voilà pourquoi je m'excuse, je fais aussi une distinction entre l'Europe, en tant que réalité historique telle que je la perçois et j'essaie de la définir, et l'Occident, que je perçois davantage comme une force ou un espace économique et géopolitique qui dépasse évidemment le lieu d'un devenir politique que j'essaye de mettre en place.
Mohamed Harkoud, nous allons reparler tout à l'heure de la laïcité à propos des événements qui se passent en France, mais tout de suite, une question à propos de l'Algérie. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, pour sortir de la situation, à court, voire à moyen terme, ou à plus long terme encore, que le sort de l'Algérie se trouve à l'intérieur d'une social-démocratie où, par exemple, un parti comme le Hamas, les islamistes modérés, auraient un rôle?
Encore une fois,
que vous apprend l'histoire, là?
Ne croyez pas que je m'évade de vos questions, mais il y a tellement de préalables pour que ma réponse soit satisfaisante, à la fois pour les auditeurs et aussi pour la manière dont je vois les choses, que je ne peux vraiment pas répondre rapidement à de telles questions. Et je me suis toujours refusé, justement, aux simplifications, malheureusement, que l'on rencontre souvent dans la presse écrite et la presse orale, à propos de questions aussi importantes, parce que elles ne sont pas perçues dans leur dimension, à la fois de ce côté-ci et de l'autre côté de la Méditerranée. Et par exemple, à propos d'un déblocage possible, je n'ai pas entendu jusqu'à présent une voix européenne autorisée ouvrant ce devenir politique possible pour les pays du Maghreb et provoquer une sorte de débat à la fois au Maghreb et en Europe, en ouvrant une perspective comme celle que je viens d'avancer. Cette perspective, elle se discute parmi les historiens, parmi les sociologues, parmi les chercheurs, mais les hommes politiques n'en parlent pas du tout. Et chaque fois qu'il y a un débat au sujet de l'Europe, en France en particulier, eh bien, cet aspect du devenir de l'espace méditerranéen n'est jamais évoqué. Et ça, c'est une carence à mes yeux.
Vous écoutez RFI, notre invité cette semaine dans Panorama International, Mohamed Harkoun, professeur émérite d'histoire de la pensée islamique à Paris 3. Suite de l'actualité de la semaine, Mohamed Harkoun, et un événement, on peut dire historique, la dévaluation du franc CFA annoncée mardi soir à l'issue du sommet de Dakar. Mohamed Harkoun, avant de reparler de l'école et de la notion de laïcité qui vous est très chère, peut-être un mot sur la dévaluation du CFA. C'est tout de même la fin d'un mode de vie entre la France et...
Absolument, parce que même en Algérie, vous savez très bien que la monnaie est d'une faiblesse alarmante. Et alors ça évoque le problème général du système d'inégalité dramatique dans lequel nous vivons depuis pratiquement la fin de la Deuxième Guerre mondiale et depuis la libération politique du tiers-monde en général. Et on a réclamé périodiquement un ordre économique mondial, un ordre monétaire mondial, un ordre international mondial. Vous vous souvenez qu'on nous l'a promis de la bouche même de notre président, François Mitterrand, pendant la guerre du Golfe, un ordre international mondial. Et sous ces ordres-là ne sont pas en place. Et ces crises sont tout à fait dramatiques pour des peuples qui sont en état de dépendance absolue à tous les points de vue, tant sur les plans culturels que nous avons évoqués, que davantage encore, bien sûr, sur les plans économiques, etc. Là, il y a, pour moi, une responsabilité internationale qui est traitée de cette façon brutale,
autoritaire,
par des instances qui sont tout à fait extérieures aux sociétés qui pâtissent de cette situation. Et voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure de l'impossibilité pour les sociétés de ce qu'on appelait le tiers-monde de produire leur histoire par elles-mêmes, par leur propre force intérieure, comme cela a été le cas pour les sociétés européennes jusqu'à présent. Et donc là, il y a aussi un problème d'une extrême urgence. Mais malheureusement, tout le monde ressent cette urgence, et c'est comme pour la Yougoslavie. Tout le monde ressent le drame, tout le monde est impatient, mais rien ne se passe, hélas. Nous vivons de crise en crise et de drame en drame.
Mohamed Harkoun, le rapport entre la laïcité et la modernité. Alors, la laïcité, vous l'avez dit un jour, me paraît intellectuellement dépassée. Expliquez-vous là-dessus, dans le débat actuel en France, c'est intéressant.
Oui, intellectuellement dépassée, en ce sens que la laïcité à la française est un ensemble de compromis réalisés à l'intérieur de la société française entre les pouvoirs au pluriel que représente l'Église, catholique en l'occurrence surtout, et l'État. Ces compromis sont une leçon très importante. Je ne néglige pas les progrès réalisés dans la détermination des espaces dévolus à l'Église et des espaces dévolus à l'État. C'est très instructif. Et les débats qui ont accompagné, les débats intellectuels qui ont accompagné cette suite de compromis, également sont extrêmement intéressants, comme celui de Clémenceau contre Jaurès qu'on nous a rappelé récemment. C'est extrêmement intéressant. Il y a là un capital de débats, d'expériences irremplaçables. Et alors moi, ce qui me préoccupe et me passionne, c'est de faire participer à ce débat riche, justement, ce fameux Maghreb dont on parlait tout à l'heure.
Oui, parce que les sociétés maghrébines sont passées complètement à côté de la laïcité, enfin la laïcité assimilée en tant que culture.
Oui, elles ne sont pas passées entièrement à côté. Rappelez-vous Bourguiba. Bourguiba est un homme de la Troisième République. Il avait les idées et la culture de la Troisième République. Et voyez ce qu'il a fait au lendemain de l'indépendance, en intervenant dans ce qu'on appelle le statut personnel, en réformant le statut personnel. Et il y avait des possibilités de faire progresser l'idée laïque, au meilleur sens du terme, d'une laïcité ouverte, intégrative des cultures. Car quand je dis que la laïcité telle qu'elle se déroule en France, telle qu'elle est discutée en France, est intellectuellement dépassée, je veux dire par là qu'il y a toute l'intégration des autres cultures qui sont représentées aujourd'hui dans la société française par tous les immigrés venus de tous les pays, nous le savons. C'est une société devenue bigarrée. Il faut une approche anthropologique de ces cultures aujourd'hui en France pour essayer de les embrasser, de les accueillir dans un espace éducatif qui ne fait pas encore les divisions qui se faisaient et qui pouvaient se comprendre sous la Troisième République, mais plus aujourd'hui.
C'est Mohamed Harkoun.
Un élargissement anthropologique.
Vous voulez
de la définition de cette culture qui n'est pas encore réalisée. Là, je peux vous donner de très nombreux exemples sur la part, par exemple, de l'enseignement de cette culture arabe et islamique qui fait partie de la culture méditerranéenne, comme je le disais, dans les universités françaises et les écoles françaises.
Précisément aujourd'hui, dans le débat français, par exemple, il y a les protestants, mais il y a aussi les musulmans qui disent, mais nous, on est absolument, on est méprisés, on n'a pas notre place dans l'enseignement.
Et significativement, vous avez vu la réponse de Michel Rocard, qui se méfie beaucoup, justement, de cette demande. Et qui, pour l'instant, dit-il, je l'ai encore entendu tout à l'heure, à l'heure de vérité, dit-il, il faut absolument se méfier de cela. Michel Rocard lui-même, qui est donc du côté d'une laïcité. Et là, je trouve une réponse qui est plutôt fermée, couverte. Je ne demande pas, évidemment, la reconnaissance d'écoles musulmanes. C'est pas ça, mon propos. Mon propos est un élargissement de l'espace public de l'enseignement aux autres cultures qui sont représentés en France et qui ont en France des gens qui revendiquent la connaissance de ces cultures.
Mohamed Harkoun, je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué, il faut être très subtil et je sais que vous aimez être subtil précisément. Je rappelle que vous êtes au comité d'éthique. Alors on vit quand même, cela dit, une époque formidable.
C'est formidable. Oui.
En 75, le ministre de la Santé protégeait les femmes enceintes qui ne souhaitaient pas leur grossesse. 20 ans plus tard, voilà le même ministre qui protège l'embryon en attente d'une gestation. Alors comment éviter que les interrogations actuelles sur le pouvoir de la science n'apparaissent au mieux comme un signe de conservatisme et au pire comme un signe d'obscurantisme? C'est de quoi la question que peuvent se poser nos compatriotes, précisément, enfin nos voisins de la Méditerranée.
Et oui, hélas, les voisins de la Méditerranée, voilà un exemple qui illustre ce que je vous ai dit tout à l'heure au sujet des retards accumulés sur le plan culturel et sur le plan des idées qui font marcher notre monde d'aujourd'hui. Ces débats extrêmement intéressants qui nous conduisent aux frontières les plus reculées de la condition humaine et par conséquent qui nous incitent à apporter des réponses nouvelles à la fois à ce qui doit guider la recherche scientifique et lui conserver sa liberté absolue pour être continuée toujours plus avant et en même temps de découvrir ces limites de la personne humaine, la protection nécessaire de la personne humaine, qui ne doivent pas être exposées surtout aux lois du marché, qui s'emparent des découvertes scientifiques pour faire toutes sortes de... Il y a là des débats d'un extrême intérêt, et j'ai le privilège justement d'écouter ces débats avec des personnalités à la fois scientifiques et humanistes, je dirais, pas morale, parce que nous ne faisons jamais de morale courante, mais humaniste au meilleur sens du terme, au sein du comité d'éthique. Et alors, en même temps, chaque fois que j'entends ces débats tels qu'ils se déroulent en France, mais aussi en Europe, je pense au retard considérable, accumulé, encore une fois, dans les sociétés musulmanes, où on est accablé par cette démographie qui est un des facteurs, précisément, de toutes les crises auxquelles nous assistons aujourd'hui. Et on ne voit pas de possibilité, pour l'instant, de contrôler ce poids démographique qui pèse sur ces sociétés, qui par ailleurs sont soumises à toutes sortes d'aléas, non seulement politiques, économiques, mais aussi d'aléas qui viennent de leur éloignement de ce qui se passe de significatif, de porteur de nouvelle histoire dans les sociétés européennes. Quand on connaît cela et qu'on le vit de très près, même dans sa propre famille, je vous assure que c'est très difficile à vivre. Et là, je le vis dans ma propre famille. J'ai mes frères et mes sœurs qui sont en Algérie et ils vivent dans des conditions où on voit revenir des superstitions anciennes, où on voit, par exemple, la fameuse croyance dans les djinns, qu'on va voir des marabouts pour vous faire passer les djinns, comme on disait. Revenir dans l'Algérie actuelle, alors que en France et en Europe, nous parlons de ces problèmes qui sont tellement exaltants pour justement l'émancipation de la condition humaine et avec tous les problèmes à la fois intellectuels et éthiques que cela pose. Il y a là une distance extrêmement difficile à porter, à assumer, à vivre lorsqu'on appartient à deux mondes qui sont si proches géographiquement et si éloignés intellectuellement, culturellement et malheureusement aussi dans d'autres conditions de vie.
Mohamed Harkoun, on vous écouterait pendant des heures. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous n'enseignez plus officiellement en France, mais vous enseignez en tous les cas à l'étranger, dans des sociétés sans doute plus ouvertes à la pensée méditerranéenne, maghrébine, comme la Hollande. Vous avez une chaire à Amsterdam. Je rappelle sans doute un de vos titres les plus fameux, Pour une critique de la raison islamique, aux éditions Maisonneuve La Rose. Dans 8 jours, à votre place, pour commenter l'actualité de la semaine, un sociologue, Dominique Volton. Très bonne semaine à tous.